Nilikuwa mnyumba, ilikuwa siku ya ine. Bwana angu alikuwa iko tunako tunatoka kusoko mimi na yeye. Sasa nika bwana mume akauzisha ngombe na mimi nilikuwa nachuruza manguo.
Mwae mon mari on quittait le marché.
Siku ya tano usiku.
Mon mari venait de vendre une vache et moi je vendais aussi les pagnes. La nuit, à minuit, nous avons entendu des coups de balles à l'extérieur. Quand nous avons ouvert, alors nous avons vu que c'était des agresseurs. Ils sont venus chez nous, dans la maison. Ils ont pris mon mari et l'ont tué. Après avoir tué mon mari, ils m'ont violé. J'étais au nombre de 20. Après m'avoir violé, ils m'ont coupé les doigts comme vous venez de le voir.
Oui, votre pouce est coupé et vous avez des cicatrices partout sur le visage et le corps.
Et ils ont pris les cadavres de mon mari, ils ont coupé les sexes de ces cadavres. Et ils ont pris le ventre de ces cadavres, ils ont ouvert, ils ont pris les intestins. Ils ont enfermé le pouce, mon pouce et le sexe de mon mari. Donc, ils m'ont obligé de manger. Quand j'ai mâché, je ne voulais pas avaler. Ils ont commencé à me couper un peu partout, les visages un peu partout, dans la cuisse un peu partout.
Mutoto balilala naye, balimulalisha babake.
C'est-à-dire, je voulais vous expliquer comment mon mari a été tué. Quand ils l'ont fait sortir à l'extérieur, ils ont appelé mes enfants, ils ont vu ma fille de 14 ans, ils ont pris mon mari, ils l'ont déshabillé, alors ils ont voulu à ce que mon mari puisse violer sa fille, alors ils ont fait coucher de force mon mari sur sa fille, et alors après ça, ils l'ont fait trois fois, à trois reprises. Après ça, ils l'ont coupé, ils l'ont tué, ils ont tué aussi la fille, ils tué les cinq autres enfants qui étaient sortis de la maison. C'est ainsi que je suis restée seule, puisque mes parents étaient déjà décédés avant, mais ce n'était pas à cause de la guerre. Mais mes frères, on les avait tués là où ils étaient partis chercher de la matière première, et un peu à une centaine de kilomètres de chez nous. C'est ainsi que je suis restée. Je suis ici à l'hôpital, je suis en train de me demander, je vais rentrer où, je vais vivre comment. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de frères, je n'ai pas des enfants. Et je suis ici, je suis seule, alors je me demande, et je vais rester où, je vais aller où.
Si tu es là, tu es là, tu es là. Si tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Na mimi najua nikienda kule,
je suis resté malheureuse. Vous voyez comment on a coupé mon doigt. Ici chez nous, c'est les travaux qui font vivre une personne. Alors, quand je suis comme ça, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de casserole. Je ne suis nulle part. Alors, je suis en train de me demander quelle sera ma vie. Ici, je suis en train de souffrir. Alors, je souhaite autant mourir, mais je compte que vous, mes sœurs et vous, mes frères, vous êtes là pour lutter à ce que la vie s'améliore.
Ce reportage a été réalisé en octobre 2004 dans l'est de la République démocratique du Congo, un pays qui vit dans l'instabilité ou dans la guerre depuis près de 12 ans. Ce conflit a causé 4 millions de morts et, comme beaucoup de conflits, et particulièrement en Afrique, les principales victimes ont été les plus faibles, c'est-à-dire les femmes et les enfants, qui ont été privés de toute forme de soins ou d'accès à la santé. Nous sommes à l'hôpital de Panzi, dans la ville de Bukavu. La ville de Bukavu, c'est une ville tout en dénivelé, très belle, au bord d'un grand lac qui s'appelle le lac Kivu. C'est là que j'ai rencontré Hermine, que vous venez d'entendre, ainsi que Rizik, Kamitunda, Bahati, Séraphine, Louise et beaucoup d'autres. Avec l'aide de l'Église protestante et de l'ONG PMU Interlife, ainsi qu'avec l'argent de la Commission européenne, l'hôpital de Panzi offre gratuitement aux femmes du Sud Kivu de prendre en charge leurs problèmes de santé dus aux agressions ou à la guerre.
Je sais qu'il y a cette pulsion du viol qui peut exister chez les combattants après un danger ou quoi, chez tous les êtres humains. Ça peut... Mais l'ampleur où le phénomène a pris ici, ça semble quelque chose de tellement anormal. On a violé des petits enfants, des enfants vraiment de très bas âge. On a violé des grands-mères qui ont dépassé les 70 ans. À ce moment, quand sur le terrain, je passe comme médecin et que les personnes me disent « Mais enfin, docteur, comment on peut violer cette grand-mère? Qu'est-ce qu'elle peut encore avoir d'attirant ?» Eh bien, moi-même, j'en reste abasourdi, quoi. Alors, une des rumeurs qui a couru, c'est qu'on disait à ces gens, quand vous violez, on a fait certains fétiches pour être invulnérable au combat, ça vous donne une vertu spéciale. Je crois ces rumeurs, tu les as entendues. On a utilisé le viol comme arme de guerre. Il fallait terroriser les populations pour qu'il n'y ait pas des velléités de résistance ou de rébellion. On cassait une certaine volonté de la masse paysanne pour qu'elle ne puisse pas s'opposer aux combattants. Quant à savoir, est-ce que ça a été étudié, orchestré ou préparé, là, c'est vraiment m'en demander trop.
Donc ici, nous sommes au niveau du service externe de l'hôpital. En fait, les malades victimes de violences sexuelles arrivent à la réception de l'autre côté. Et il y a toujours une infirmière et une assistante sociale qui sont là pour les recevoir. Maintenant, nous allons nous rendre dans le service interne, donc des hospitalisations, où je vais vous montrer les malades, une fois qu'ils sont reçus, qu'ils sont opérés, ils sont hospitalisés de l'autre côté. Nous hospitalisons toutes les femmes qui ont des lésions génitales que j'appelle graves, par exemple celles qui ont des pertes des urines ou qui ont des pertes des matières fécales, celles qui ont des plaies infectées au niveau de leur appareil génital après le viol, nous les hospitalisons pour pouvoir les suivre. Les femmes qui ont été violées mais qui ne présentent pas des lésions graves, peut-être qu'elles présentent tout simplement des infections sexuelles transmissibles, et ces femmes-là, nous les soignons en externe. Ici, par exemple, nous allons entrer dans la salle d'hospitalisation des femmes victimes de violences sexuelles qui ont déjà subi une intervention. Et là, c'est le service d'hospitalisation. Vous voyez ici, nous avons 4 pavillons. Il y a encore 4 pavillons plus bas. Et en fait, nous allons passer dans ces pavillons. Mais là où nous entrons maintenant, ce sont des femmes qui ont déjà subi une intervention et qui sont sous surveillance médicale. Amjambo à maman. Habari. Bon, là, j'ai salué, j'ai dit bonjour. Comment vous aviez passé la nuit? Elles disent que ça s'est bien passé. Dans la salle, nous avons une 30aine de lits. Voilà, bon, ben là, l'équipe médicale fait la visite maintenant pour voir ce qui s'est passé la nuit.
Les principaux problèmes qu'on rencontre, un peu dans l'ordre, il y a des femmes à cause de la guerre qui n'ont pas été assistées médicalement, hein, donc au moment d'accoucher. Et avec la guerre, l'absence du médecin, où le médecin n'est pas accessible entre le village où la femme est enclavée, il y a des hommes armés entre deux groupes, elle ne sait plus accéder à l'hôpital et elle accouche sans assistance avec tous les drames qui peuvent en arriver. Elle aurait dû subir une césarienne, elle a accouché par voie basse, il y a des déchirures très graves qui peuvent détruire et sa vessie et son rectum. Et ça, c'est, vous imaginez un peu quelles complications pour un être humain de vivre dans ces conditions là-bas en perdant et ses urines et ses matières fécales.
Ça, c'est ce qui cause souvent ce qu'on appelle les fistules, c'est ça?
Oui, et ces fistules-là, ça incommode, on ne peut pas vivre parce que les urines sentent mauvais si elles s'écoulent constamment dans les vêtements, et un être humain qui passe à côté, là, il subit un peu le rejet de toute la communauté. Donc il faut absolument une assistance chirurgicale complexe, hein, un gynécologue spécialisé dans les fistules pour pouvoir résoudre, traiter ce genre de pathologie. Bon, un autre problème que les femmes violées peuvent connaître aussi, c'est d'abord un viol, c'est un rapport sexuel non consentant. Et la personne qui le fait peut être porteuse d'une maladie. Et surtout, on a parlé même de viol collectif. Si dans le groupe un homme est malade, il peut contaminer aussi bien la victime que ses autres collègues. Donc c'est déjà cette infection. Si ça faisait partie, si on n'y avait que les maladies traditionnelles qu'on disait vénériennes, entre la blénorragie, une syphilis ou quoi, elles sont encore curables. Mais aujourd'hui, il y a les porteurs de sida, et ça c'est une atteinte pour toute la vie de la femme, d'une maladie incurable. Voilà déjà une conséquence qu'elle peut traîner toute sa vie. Mais en plus, comme on l'a dit, c'est un rapport non consentant, forcé même, brutalement, et ça crée des traumatismes psychologiques graves. Une autre conséquence, c'est que lorsque dans un contexte de guerre, dans un ménage, on apprend que la maman a été violée, ça marque les enfants parce que ça s'est fait parfois devant eux ou dans la chambre à côté. Ça marque beaucoup plus le mari et puis ça crée des interrogations. Il y a des couples qui se sont séparés à cause de toutes ces conséquences. Donc il fallait aborder ce problème avec des soins aussi bien psychologiques, des soins médicaux ou des soins chirurgicaux.
Ça, sa maman, Matakuti à Nani. Batakutia katetera hapa juu ya kutia dawa, kisha basha kutia ile nani, tutaingia mwa ile sale kule. Unaona vile si wote tunavala, usiogope. Bo kisha pale batakupiga sindano mgongo.
Oui, le docteur explique à la malade qu'on va lui placer un catheter veineux et puis elle va entrer dans la salle d'opération, qu'elle ne puisse pas avoir peur. On va lui donner une anesthésie rachidienne, c'est-à-dire c'est à partir d'une injection au niveau de la colonne, qu'elle ne puisse pas avoir peur. C'est pour qu'elle soit opérée sans douleur. La malade accepte.
Sonde urinaire, numéro 14. Hakuna bisturi, hakuna nani ya mrefu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une manche beaucoup plus longue que ça?
Et cette dame, c'est... elle est à peine à... elle est à 2 ans d'hospitalisation. 2 ans d'hospitalisation ici chez nous pour une fistule très compliquée. Il y a des stades de fistules, il y a des fistules simples et des fistules compliquées. Elle avait une fistule compliquée. Elle a déjà subi 6 opérations, je crois, et elle est en attente de sa sortie. Normalement, les malades, après l'opération, ils passent 14 jours ici, à lutter avec une sonde urinaire. Après 14 jours, on enlève la sonde et on suit comment va se passer la miction. Si la fistule est réparée, alors on la fait sortir 2 ou 3 jours après. Maintenant, on a enlevé sa sonde avant-hier, celle-ci. Elle est donc en convalescence. Elle est suivie pour voir si elle peut maintenant rentrer à la maison. Abargan, bonjour, je la salue. Elle dit qu'elle, jusque-là, elle n'a pas encore uriné seule. Cela veut dire que peut-être elle a encore une fissure qui n'est pas encore guérie. Alors nous allons encore la réexaminer.
Comment ça se fait qu'après 6 opérations, vous ne réussissiez pas à réparer la fissure?
Une fissure compliquée, c'est-à-dire si elle est très large, jusqu'à, on peut arriver à, même à 10, même à 15 opérations.
Bonjour. Vous vous appelez comment?
Riziki.
Je m'appelle Riziki.
Vous avez été opéré, Rizik?
Oui, on m'a opéré.
Bugonjwa mikoyo.
J'avais le problème des fistules.
Nilikamatwa na bauto kumangeli.
Moi, j'avais été prise dans la brousse.
Tulikimbia vita, njo wakatukuta kule kumangeli wakatuchomokea, njo wakanitosha manguo mbele ya wazazi na wakatembea na mimi.
C'est-à-dire que pendant la guerre, nous avons fui jusque dans la brousse. C'est là où ils m'ont pris et en présence de mes parents, ils m'ont déshabillé, ils m'ont violé en présence de mes parents.
Kisha nikabakia na mimba yabo, kisha mimba ikafika wakati ya kuzaliwa ikaleta fujo.
Quand ils m'ont violé, ils m'ont laissé avec une grossesse. Et c'est au moment d'accouchement que j'ai eu des problèmes. Et après ça, je n'ai pas eu d'enfant puisqu'il était sorti déjà mort. Après ça, j'ai perdu suffisamment de poids. Nous sommes rentrés de la brousse au village. C'est dans notre village qu'on a constaté que la vessie était vraiment détruite.
Rizik, vous avez quel âge?
Oui, j'ai 16 ans. Je suis encore enfant.
Vous venez d'être opéré, Rizik. Comment ça s'est passé, l'opération?
Ivi, Nico, bien?
Maintenant, je suis bien. Je ne savais même pas comment c'était passé. Je me suis seulement retrouvée dans ce lit sous sonde. Je ne savais pas c'était quoi.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire, Rizik, quand vous allez sortir d'ici?
En
sortant d'ici, je peux souhaiter étudier seulement.
Ces actes, je comprends ça au niveau des conséquences horribles que ça crée. Il y a les traumatismes physiques, on peut avoir des lésions physiques, mais il y a aussi des maladies qui peuvent en découler. Et il y a des conséquences au niveau psychique. Cette personne vraiment vient de vivre une expérience traumatique et elle perd sa dignité, elle perd toute sa personne. Et qu'il y a des conséquences même économiques, parce que dès que cette personne n'a plus l'énergie, n'a plus la dignité, n'a plus de force, elle ne peut plus travailler. Et donc on perd sur le plan économique, mais surtout que ces violences soient accompagnées des pillages. Hein. Et donc, c'est encore une destruction économique. Mais il y a aussi un aspect social très, très important. Cette victime se retrouve exclue de la société. Est-ce que je garde mon importance en tant que femme? Et si elle parvient à être quittée par son mari, et si c'est une jeune fille qui n'aura plus un fiancé, qui n'aura plus de copains, vous voyez cette destruction de l'état social, tu comprends que c'est vraiment horrible quoi, pour une société. Et que pour moi, je n'accepte pas ça. C'est vrai que j'apporte un soutien à ces victimes en tant que médecin, mais aussi je reste comme membre de la société. Et je vis ça difficilement et je me dis, il faut se battre pour qu'on arrête ces genres de choses, quoi. Et que de tels phénomènes, je crois qu'il faut en parler, il faut mettre en marche des mécanismes pour arrêter, quoi.